Nicolas, vous étiez en train de répondre à ma question. Je me demandais comment vous étiez arrivé à écrire l'Évangile des ongles dans ce lieu. Et en fait, il se trouve que vous avez une référence familiale. Donc vous alliez toujours dans cet endroit depuis que vous étiez petit.
Oui, alors pas depuis que je suis petit. Cette grange, ils l'ont acquise il y a une vingtaine d'années, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on avait... On a pris pour habitude d'y aller de temps en temps, pour faire des randonnées, de s'y retrouver des fois en famille, entre cousins.
Donc un lieu complètement isolé de tout, sans électricité, sans...
Avec électricité, s'il vous plaît, un petit peu de confort. Non, mais en fait, il faut l'imaginer, voilà, une vieille grange au fond de laquelle il y a une grande cheminée. Même l'été, quand il peut faire froid là-haut, on fait des flambées et c'est quand même assez merveilleux. On a vraiment l'impression d'être... hors du temps, c'est très très chouette.
Dans la forêt,
dans la montagne. C'est pas vraiment une forêt. Il y a des pâturages un petit peu à côté. Et le tour en ardoise, ils ont un peu biscornus. Et le port des toilettes ferme mal.
Ils ont refait
une espèce de tout l'étage dans lequel ils ont créé des chambres. Et c'est un endroit assez merveilleux, voilà. Et je m'étais toujours dit que je voulais écrire quelque chose qui se passe, pas forcément dans cette grange, bien sûr, mais dans ces environs-là, dans ce coin-là, que je trouve vraiment, vraiment chouette.
Et justement, vous me disiez, au moment où j'ai allumé le micro, que vous aviez des thèmes qui revenaient après le dernier roman. Mais comment est-ce que vous aviez des intuitions? Est-ce que vous mettez sur des pistes, vous suivez des signes? Comment vous vous êtes... appelé à écrire sur quelque chose? Donc là, évidemment, il y a la grange, mais...
Là, c'était les thèmes du polar. C'est toujours un peu la peur. Comment on peut faire peur et, ce genre de choses.
Comment terroriser
le lecteur. C'est vraiment... c'est un vrai sujet, ça. Une blague à part, c'est... Depuis quelques années, j'ai pris pour habitude de prendre plein de notes. Des notes de bout de phrase que j'entends ou d'une idée que je peux voir à la télé, une scène qui me plaît ou une série qui a exploité un thème qui me plaît. Je me dis, tiens, pourquoi pas creuser dans cette direction. Tout ça fait tout un ensemble de notes et je puise de temps en temps là-dedans pour essayer de trouver voir ce que je peux exploiter. Pour l'Évangile des ombres, en fait, j'avais ce lieu. Je me suis dit que le lieu, forcément, ça ne fait pas une histoire. Et donc, je me suis mis à chercher un peu des faits divers qui s'étaient passés dans la région.
Autour des Pyrénées. Est-ce que justement, vous aviez été interpellé en 2011 par le scandale quand il a vraiment émergé, éclaté.
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, je t'ai passé complètement au travers. Et c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que...
malheureusement.
Je suis tombé sur un fait divers d'une dame qui avait accouché à Dax, côté français, et qui expliquait qu'elle était persuadée qu'on lui avait volé son enfant. C'est-à-dire que le jour de son accouchement, une nonne est rentrée, une bonne sœur est rentrée dans la salle d'accouchement, a pris le bébé. Elle a entendu son enfant pleurer.
Elle se souvient très bien de ça.
Elle se souvient très bien, parfaitement de ça, et la bonne sœur est partie et elle a demandé à voir son enfant. On lui a dit, c'est pas possible, il est mort. Et elle a dit, non mais comment ça, mais c'est pas possible, je veux voir le corps. On lui a dit, non, c'est pas possible, il est déjà enterré. Elle est repartie de l'hôpital avec, il s'est passé plusieurs heures, bien sûr, entre ces quelques phrases, mais elle est repartie de l'hôpital avec tous les certificats en règle. Certificat de décès, inhumation, en fait, tout ce qu'on peut imaginer.
Quelle énorme supercherie, bien organisé, bien ficelé, professionnel.
Et ça, je me suis dit, c'est quand même assez terrible. Et donc, en fait, je suis parti de là pour remonter jusqu'à la guerre civile espagnole.
Oui.
Et en fait, j'ai redéployé l'histoire dans l'autre sens. Ensuite, je suis remonté dans l'autre sens. Mmh. Et grâce à des livres, des podcasts, je me suis renseigné. Mmh. Voilà, c'est comme ça que j'avais maintenant une histoire. Et pour une fois, qui faisait partie de la grande histoire... Et j'ai creusé ça jusqu'à me dire il faut vraiment écrire là-dessus. En fait.
C'était fascinant d'entrer dans votre polar ou votre livre d'histoire, je ne sais pas comment l'appeler. Mais
on
je
va
crois
rester
que...
sur du polar. Je ne suis pas historien, donc vraiment, je ne raconte que des histoires.
c'est tellement proche de la réalité. Bien sûr, vous avez enquêté là-dessus pour que ce soit fidèle aux faits. Et comme vous êtes en plus arrivé sur cette thématique par un témoignage et non par le téléjournal ou... Donc, par en fait le cri de désespoir d'une femme, donc c'est d'autant plus fort, puisque ce sont souvent ces cris-là qui sont étouffés.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Et c'est très intéressant que vous ayez attrapé par ce bout.
Et c'est marrant ce que vous dites parce que, en fait, avant moi, évidemment, il y a plusieurs romanciers qui sont emparés de cette histoire, mais je vais parler de Johanna Gustafsson, qui m'a mis un petit mot sur la couverture, qui est une autrice de polar fantastique, très douée, et qui a parlé dans un précédent roman qui s'appelle « Sang, des orphelinats de la peur », qui avait souffert. Et forcément, quand j'ai eu cette idée de m'intéresser aux femmes... aux femmes, aux enfants, sous cette période-là, je me suis rapproché de Johanna, on a discuté, on a échangé. Et elle m'a conseillé de lire un livre qui s'appelle « Les voix endormies » de Dulce Chacón.
D'accord.
Les voix endormies.
Les voix vraiment, endormies.
Voilà, ça fait un peu référence.
C'est très parlant pour des voix qui dorment.
Oui, et c'est très intéressant parce que là, ça raconte l'histoire, mais elle est vue du point de vue des femmes, des points de vue des femmes emprisonnées. Et c'est que des femmes qui font l'objet de ce roman, et c'était très très intéressant. Enfin, je rebondis là-dessus parce que vous avez parlé de...
Justement,
les voix oubliées.
C'est tellement intéressant d'entrer dans un secret. Donc, on ne va pas dévoiler il faut le lire absolument, il est fascinant. En fait, c'est non seulement on est suspendu, donc vous ne nous donnez rien, ça c'est génial. Donc, on reste suspendu.
C'est fait exprès.
Et
voilà,
ne lâche rien. Et on se prend. Pour ma part, bien sûr, je ne peux parler que pour moi. Je me suis prise d'affection pour les protagonistes pour plein de raisons. Ça résonne en chacun de nous. Évidemment, dans toutes les familles, il y a des omertas, il y a des secrets. On pense que de les garder enfouis, c'est rendre service à la progéniture ou à la postérité. Et souvent, c'est faux.
Oui, complètement.
Après, s'il n'y a pas cette prise de conscience-là, il y a aussi trop de douleur pour le transmettre. Ou une course-poursuite avec la vie ou l'existence, la survie, ou une chasse vers le bonheur qui empêche de revenir vers ce qui est sombre. Et parfois, c'est à la fin de la vie seulement que les gens révèlent les secrets.
Et oui, malheureusement, après, ça nous tombe dessus des fois.
C'est
très lourd à porter, on n'a plus de personnes avec qui les partager.
Évidemment.
On a beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Pas de réponses ou peu de réponses, il faut chercher. Et cette espèce de transmission, le fait de briser un secret comme ça, c'est aussi légitime de le garder parce que c'est peut-être très lourd à porter, c'est douloureux, c'est plein d'histoires qui s'entremêlent et c'est pas évident pour les protagonistes, je pense, de quel bord.
De s'incarner dans une identité.
Oui, parce que...
Parce qu'il manque des éléments.
C'est ça, mais en plus, on pense à ces enfants, en fait, ces enfants qui ont été enlevés,
évidemment,
et qui sont placés dans d'autres familles, pour les rééduquer à la façon de Franco. Souvent, je fais le parallèle avec ce qui se passe en Russie, à l'heure actuelle, c'est exactement ça. On parle à l'heure actuelle de 35 000 enfants volés... ukrainiens qui ont été volés par les Russes depuis 2014, c'est-à-dire la guerre de Crimée et la guerre de maintenant,
oui.
Qui ont été volés à leur famille, rééduqués pour être renvoyés sur le front combattre leur famille, par exemple. Ça c'est encore, je fais une parenthèse là, mais
c'est
aussi
c'est
dramatique.
Oui, voilà.
Et
par rapport à votre parcours personnel en tant qu'être humain, est-ce que ça vous a... Vous êtes senti transformé à travers cet épisode de votre vie professionnelle.
Touché
de si près quelque chose de...
Forcément, ça m'a touché, oui, beaucoup. Moi, pour écrire un roman, j'ai besoin de beaucoup de matière.
Vous disiez deux ans pour l'écrire, hein ?
Deux ans.
Deux ans, ce qui est court.
Oui, ça dépend des auteurs, mais
subjectif, mais quand même.
Comme moi, j'ai un travail à côté, forcément, ça fait des journées bien remplies, mais... Moi, c'était pas qu'un article, c'était de la documentation, beaucoup de recherches, des lectures, j'ai beaucoup de recherches sur Internet, des témoignages que j'ai coupés, recoupés, pour essayer que tout ça se consolide, que tout ça se tienne. forcément, il reste quelque chose de beaucoup plus fort derrière, une espèce de masse de documentation qui reste là, qui reste posée, dans lequel j'ai pioché. Et voilà, après, il faut s'en détacher. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus, plus fort que mes précédents romans, on va dire.
Est-ce que vous avez vraiment laissé la problématique de l'évangile des ombres là où, avec la fin du livre, où ça vous poursuit, il y a une évolution encore, il y a des témoignages, il y a encore ces enfants sont vivants, certains ne sont même pas.
Oui, alors ça me poursuit, non. Quand je vois un article sur le sujet qui sort, je m'y intéresse, je parcours. Maintenant, je suis passé à autre chose. Cette histoire-là, c'est important pour moi d'en parler. Maintenant, j'ai envie de tourner aussi la page et de m'intéresser à d'autres sujets. C'est aussi ça, ce qui est intéressant quand on écrit. Mm-hmm. C'est qu'on peut piocher différentes choses, s'intéresser à des sujets complètement différents. Là, c'était mon premier polar historique. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres.
Ah.
Je ne sais pas du tout.
Non, c'est très
j'ai
intéressant.
Envie de me laisser porter par...
Oui.
Le prochain ne sera pas du tout historique.
D'accord.
Pas du tout.
Mais on ne peut pas
non,
savoir.
Non, on peut pas. Non,
je suis désolée, messieurs.
Beaucoup trop tôt.
Non.
non, mais c'est, voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose. J'ai envie de...
D'aller là où votre curiosité vous porte.
Quand ça me touche, ça m'interpelle. Ou
ça, c'est ce qui compte.
Ou même, j'ai envie de raconter une histoire qui n'a pas forcément de thème, vraiment un truc pur polar. Mais pourquoi pas, me faire plaisir. Le plus important, c'est me faire plaisir. Vraiment, y trouver que je prends toujours du plaisir à écrire. Ça, c'est... Après, on verra. Si ça continue, très bien.
Bien sûr.
Si ça s'arrête, ça aurait été un beau parcours.
On ne peut que vous féliciter. D'ailleurs, vous me faisiez la liste des salons où nous pourrons vous trouver.
Oui.
Belgique, le prochain.
Ah oui. Alors, je vais essayer d'au moins pas trop en oublier. Ça va être facile. L'Iris Noir, donc ça va être à Bruxelles.
À Bruxelles, parfait.
Ensuite, je serai à la Foire du Livre de Brive.
Oui.
Les trois jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, je vais enseigner sur un salon qui s'appelle Noir Ormesson, au sud de Paris. Donc là, on va être une soixantaine d'auteurs de polar, donc je vous invite grandement à venir.
Mm-hmm,
on va être nombreux, ça va être super chouette.
Ah bah oui.
Ensuite, il y aura Sans d'encre alien, certainement, la troisième semaine de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je vais finir par Francisque des Cévennes. Super petit salon de polar qui se passe au Vigan, on sera que 8 auteurs. Avec des projections privées, le film en rapport avec les polars, donc ça va être très très chouette aussi.
Film en rapport avec les polars, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'on vous a déjà proposé de mettre en scène les
Ah non, pas encore, mais je croise les doigts. Écoutez, si vous avez des relations, n'hésitez pas.
Écoutez, je vais y penser, le message passera à la
voilà.
radio.
Et puis ensuite, on aura, je vais finir par la FNAC le mi-décembre, par une dédicace avec... deux copains que j'adore et qui écrivent merveilleusement bien, Olivier Martinelli chez Cubic pour son dernier roman, et ensuite Charles Aubert aussi, un copain que voilà, je suis très très heureux de faire partager un petit moment de dédicace avec eux. On sera tous les trois à la FNAC le 13 décembre.
D'ailleurs, vous êtes à la FNAC en tête de vente, si je ne m'abuse, en ce moment.
Il paraît bien, c'est pas mal ça.
Oui, c'est pas mal, on peut le dire.
C'est une bonne nouvelle ça.
Ouais. Nicolas Nitten, merci infiniment. Merci pour ce roman incroyable qui nous fait tous réfléchir sur notre appartenance et notre envie de transmettre ou pas.
Ou pas. C'est ça.
Et chacun est libre de trouver son bonheur là où il peut.
Bien, merci à vous.
Il y a des choses à dire. Merci infiniment.
Merci.